Bonsoir à tous, bienvenue pour cette dernière session. Comme je suis aussi organisateur de conférences sur Rouen, à Codeur en scène, je fais aussi la pub pour tous les sponsors. C'est ce qui permet de financer tous les déplacements des orateurs, et toute la salle, toute la vidéo, etc. Et donc, j'organise aussi Codeur en scène à Rouen, où on mélange de l'agilité, du développement, du DevOps, du Big Data, du Java, plein de choses. Et aussi à NWX pour l'axe plus start-up, entrepreneur. Et donc, je suis notamment le directeur technique, le CTO de Sagi. Je vous expliquerai lors de la présentation ce que ça fait pour illustrer mon cas. Et donc, je vais vous faire le parallèle entre l'Empire mongol et la croissance d'une start-up. Et comment on organise une start-up par rapport à ça. En fait, pourquoi je fais le parallèle? Parce que l'Empire mongol, en moins de 100 ans, ont envahi quasiment toute l'Asie. Ils avaient un modèle économique. En jeu vidéo, c'est le loot. En français, c'est du pillage. C'est-à-dire, c'était de la croissance externe. Ils arrivaient dans une ville, ils prenaient toutes les ressources financières, mais aussi, ils triaient les personnes pour avoir les meilleurs artisans et les meilleurs ingénieurs, puis après, ils faisaient tourner la ville pour centraliser ça. Et donc, ils amenaient de plus en plus de richesses. Et ils sont arrêtés aux portes de l'Europe. Donc là, c'était le Moyen-Âge. Et quand dans la vraie histoire, l'Europe, à ce moment-là, était très pauvre. Ils se sont arrêtés parce qu'il n'y avait pas grand-chose à piller. Ils préfèrent aller dans le Moyen-Orient, où l'Empire musulman s'agrandissait, où il y avait beaucoup plus de richesses. Et tout ça en moins de 94 ans. Et mine de rien, ils avaient une organisation très agile pour s'adapter à un maximum de terrains. Des terrains où ils n'ont pas réussi, mais des terrains où ils ont beaucoup réussi. C'est-à-dire qu'ils avaient des petites équipes. Je pense au Feature Team de Spotify. Et ils ont aussi vaincu de gros empires. C'était les premiers à faire tomber Bagdad depuis plus de 10 siècles. Et ça, ils l'ont fait en faisant de l'innovation de terrain, en étant très tactique. Donc si je fais le parallèle avec une start-up, la guerre se retrouve sur le marché, sur une guerre d'économie de marché. Ce qu'on fait, nous, c'est une ligne d'assemblage pour faire du big data. On prend tous les éléments pour arriver à faire du big data, ça s'appelle une data fabric, dans les derniers mots à la mode, dans le Gartner et tout ça. C'est pour déployer des applications pour des métiers à partir de données, à partir de prévisions de données. Et ça, on fait ça en prêt à l'emploi avec une appliance, du matériel et avec plein d'autres outils. Nos concurrents, et on déploie dans plein de manières, et nos concurrents, ce sont les gros empires, Oracle, IBM, SAP, Microsoft et d'autres. Et on doit s'attaquer à ça, sachant qu'ils ont un avantage, c'est qu'ils ont un gros compte en banque. Mais ils ont plein de petits désavantages. Ils ont des cycles de décision qui sont très longs. Ils ont perdu un peu de la vision, parce qu'en général, ce n'est plus les fondateurs qui sont à la tête de ces sociétés, ce sont des managers. Et souvent, quand on représente les patrons en France, dans les journaux, on ne représente pas des entrepreneurs qui risquent leur maison, qui risquent plein de choses, on représente des managers. Comme Jean-Marie Messier n'est pas un entrepreneur, c'est un manager. Et il n'y a plus forcément la vision de la société. Et après, c'est des exécutions assez lentes. Les clients ne sont pas plus traités l'un plus que l'autre. Et surtout, il y a beaucoup de ce que j'appelle le chicken, de poulet. Est-ce que vous connaissez la fable, c'est une fable classique d'agilité, de la poule et du cochon? Non. C'est une poule qui demande à un cochon, on va monter un business ensemble, on va faire un restaurant d'omelette au lard. Le point, c'est que pour la poule, c'est facile, c'est pondre des œufs, ça ne prend pas de risque. Le cochon, c'est les morceaux de sa cuisse. Donc, il y en a un qui a plus intérêt à que ça ne se plante pas. Les chickens dans les daily meetings, c'est ceux qui ne font rien sur le projet, qui sont juste là pour aller voir, qui n'ont rien d'autre à faire. Après, on peut faire une différence en étant plus rapide et plus agile et en prenant soin de nos concluants, CARE. Parce que qu'est-ce qui fait d'une start-up un succès? J'ai repris un TEDx, je vous ai mis le lien, il y aura les liens. Et cette personne a fait une étude sur plein de choses. Et ce qu'il a vu, c'est le timing. C'est pas le funding, c'est pas le business model, l'équipe est importante, l'idée pas tant que ça, mais est-ce qu'ils sont arrivés au bon moment? Je prends les objets connectés, où là c'est au pic, il y a un Français, Rafi Aladjian, quelque chose comme ça, qui a monté Carrots à l'époque. C'était un petit lapin, sur lequel on pouvait lui envoyer des informations à distance, ça jouait de la musique, ça faisait réveil, ça disait le temps et tout ça. Et ça, c'était en 2005-2010. À l'époque, le marché n'était pas prêt, il était trop en avance. Maintenant, ceux qui se lancent dans les objets connectés maintenant, ils ont 2-3 ans de retard. L'objectif, c'était d'être dans le bon timing. Après, il y en a qui disent que ça ne s'appelle pas le timing, ça s'appelle la chance. Après, c'est un autre débat. Donc, est-ce que pour nous, pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle des cycles en V? En anglais, ça s'appelle waterfall. Donc, ça tombe tout le temps. C'est ça qui est intéressant dans le principe, c'est que de toute façon, ça tombe, on n'y arrivera pas. Si on fait ça en start-up, c'est pas forcément une bonne idée, et je dirais même que l'agilité, c'est une question de survie. C'est-à-dire que si vous attendez trop longtemps que votre projet sorte, vous serez en retard sur le marché, vous aurez dépensé tous vos sous et vous n'aurez même pas le temps de payer des commerciaux, des marketeurs pour attaquer le marché. Donc, il y a le Scrum qui existe dans l'agilité, qui est classique. Qui ne connaît pas Scrum du tout? Une personne, deux personnes. Vous n'avez pas vu dans les sessions précédentes? Non? Donc, Scrum, le principe, c'est de fonctionner par itération, d'où l'escalier avec les petits pas. Et on dit, on se prend 2 semaines ou 3 semaines pour réaliser ce périmètre-là. En fait, l'agilité, c'est réduire le nombre de tâches qu'on fait en même temps pour commencer à en finir. Scrum le fait de la première manière en disant je mets un périmètre dans un temps fixe et je fais un cadencement, clac, clac, clac. Et je livre quelque chose d'utilisable aux utilisateurs. Donc on est généralement en 2, en 3 semaines. En cycle en V, on est souvent à 3, 4, 5, 6 mois, 18 mois. Une autre approche que nous, on a préférée, qui est le Kanban. Là, le Kanban, on part de comment on fonctionne et on s'améliore tous ensemble. On regarde ce qu'on améliore, on améliore le process. Parce que quelque chose qui est important, c'est que le contexte est important. Prendre une bible de l'agilité et l'appliquer, sans prendre en compte le contexte, vous allez aller droit au mur comme le reste. C'est comme dans notre contexte de start-up, où au début, on n'a pas beaucoup d'argent. Soit en start-up, soit on n'a pas beaucoup d'argent, soit on n'arrive pas à embaucher des personnes. On est toujours dans le rouge, en fait. Et comment dans ce contexte on se débrouille et comment on prend beaucoup plus en compte le contexte? C'est pour ça qu'on est parti de ça. C'est-à-dire qu'on a un flux, on mesure sa performance et on met des actions pour voir si on améliore ça. L'objectif, c'est d'être toujours prêt pour le changement, de s'adapter au changement. Les startups ont la particularité de faire ce qu'on appelle des pivots. Des pivots, c'est, je prends un exemple, Netflix, ils envoyaient des DVD par la poste. Il y avait Gloria qui faisait ça aussi en France. Maintenant, ils font du streaming, ils font limite de la production de films. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont changé. Ils ont vu que le marché était à bout de souffle, donc ils ont changé. Je prends Criteo. Criteo, c'est quand vous allez sur un site d'e-commerce, après vous allez voir un blog et vous avez la pub pour le truc que vous venez de voir sur le site d'e-commerce. Au départ, ils avaient un algorithme de recommandation pour voir des films. On peut dire, t'as vu tel film, alors tu pourrais voir tel autre film. Mais sauf qu'il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Donc à un moment donné, ils ont pensé, ils ont rencontré une personne qui leur a dit, ça pourrait être intéressant dans ce cas-là. Et ils sont allés dans ce cas-là, et maintenant, c'est une des rares sociétés qui est au Nasdaq, une des rares fiertés françaises dans la partie numérique. Parce que, en gros, c'est souvent valable pour les entrepreneurs, ce n'est pas les plus intelligents qui survivent. C'est souvent ceux qui appliquent et qui exécutent leur plan d'action. Et qui le font. Pour ça, on applique une méthode. Une approche, c'est vraiment une méthode, qui s'appelle le Lean Startup. C'est vous avez une idée, vous faites un premier prototype et vous le confrontez à un premier cercle d'utilisateurs pour avoir les retours. Vous mesurez, ok, on a ça, ok, j'ai appris ça, je refais une deuxième version, et ainsi de suite. L'objectif, c'est de, en gros, c'est très économique. Au lieu de mettre 500 000 et de voir si ça marche, je mets 15 000, je regarde si ça marche, je remets 15 000, je regarde si ça marche. Et parce que pour une start-up, on a dépensé les 500 000, il n'y a plus rien après. S'il n'y a pas de revenus qui rentrent, on est mort. Si on n'a pas de traction à montrer aux investisseurs, on ne peut pas relever. Et pour ça, on parle de minimum viable product, donc minimum qui est faisable dans un instant court, avec peu de ressources. Un produit, c'est-à-dire un produit qui fait quelque chose. Et viable, c'est pour moi qui donne de la valeur. Par exemple, en général, quand on commence un gros projet dans une entreprise, on commence par la console d'administration des utilisateurs. Nous, on termine toujours par ça. Il n'y a que le client qui râle, mais en fait, il s'en fiche parce que ce qui l'intéresse, c'est la valeur qu'on a ajoutée sur la fonction principale, sur la fonction cœur. Et donc, on est incubé à The Family. C'est un accélérateur sur Paris qui a un discours assez clivant. Et en startup, il y a le fake it until you make it. C'est-à-dire que, je vais vous le montrer après, sur des vraies copies d'écran, des choses où il y a un bouton. Et ça ne fait rien derrière. C'est juste pour rassurer le fait, est-ce que ce bouton va servir ou pas. Et on pourra avoir des exemples où nous, on se mesure à des gros. Donc des fois, il ne faut pas être comme un gros, il ne faut pas être dans la masse. Donc là, il y a des gens qui ont mis plusieurs secondes à repérer la vache. Et surtout, ça, c'est plus de la base. Je proviens d'une école d'ingénieurs, l'université, c'est quasiment pareil. On ne nous apprend pas forcément le développement itératif. Et dans une start-up, c'est avoir quelque chose de fait, pas forcément de parfait, mais qu'on puisse donner à l'utilisateur. D'ailleurs, si vous livrez quelque chose en tant que start-up et que vous ne vous sentez pas embarrassé en tant que développeur, en tant que chef de produit, en tant que CEO, en tant que fondateur, c'est que vous avez livré trop tard. Vous devez avoir déjà, quand vous le mettez, plein d'idées pour l'améliorer. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une boucle de retour. C'est-à-dire, je mets quelques sauges, si c'est quelque chose de vraiment B2C, je mesure par des données, ou c'est vraiment des choses B2B, je mesure par des données et je vais voir le client pour savoir comment ça se passe et tout ça. L'objectif, c'est d'avoir une conversation et de voir ce qui intéresse l'utilisateur ou pas, ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'à des moments, il faudra tuer des fonctionnalités parce qu'on voit que ça ne marche pas. Là, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous avec des advisors. Dans une startup, ces advisors, c'est des gens qui nous conseillent à l'extérieur. On a une personne qui fait plein de projets Big Data tout autour du monde et donc on en aura la vue en dehors de France. Il y a 70% de chances qu'à la fin de ce meeting, on tue un produit sur lequel on a déjà investi 30 000 euros. Parce que y a beaucoup de travail, il y a des remarques. Et l'autre produit sur lequel on vient de réinvestir pour tester, ça prend beaucoup mieux. Donc on va dire, je vais investir tout ici. Et c'est parce qu'il y a une boucle de retour, on discute. Et surtout, ça c'est notre marque de fabrique, notre ancien nom c'était Creative Data. Et on a toujours eu un axe sur la partie UX, expérience utilisateur. De l'ergonomie, plus des couleurs, plus plein de choses. Ça, l'écran de couleurs, c'est pour chambrer notre UX designer. Quand on lui demande un crayon, il a toujours 4 couleurs possibles. Et tout ça. Et en fait, le plus dur, c'est de faire de l'incrémental. Ça, c'est vraiment le plus dur. C'est-à-dire de ne pas faire un composant là, un composant là, un composant là. Et après, on les assemble et on prie pour que ça marche. Mais c'est de faire un premier produit qui fait une ou deux fonctionnalités et qui fonctionne, qu'on peut vendre. Et ensuite de l'améliorer pour que ce produit qu'on vendait peut-être 500 euros du mois au début, on le vende maintenant 10 000 euros du mois parce qu'il fait plus de valeur. Mais on a pu financer le produit qui vend à 10 000 euros du mois parce qu'on a pu faire quelque chose qui se vendait moins cher au début, qui avait moins de fonctionnalités, quelque chose qui fonctionnait, qui avait de la valeur. Et ça... nous, on travaille beaucoup avec l'INSA de Rouen, avec la fac de Rouen et tout ça. Et en ce moment, on essaye un peu de les faire évoluer dans leur méthode parce qu'ils apprennent toujours du cycle en V. Et donc, on fait des projets avec eux pour tester des choses, pour tester des nouveautés. Et souvent, ce qu'on a, c'est beaucoup de documentation. Mais nous, on s'en fiche. La documentation, ça va à la poubelle. De toute façon, dès qu'ils ont fait 10 lignes de code, c'est plus valide. Le point, c'est vraiment de créer de la valeur et de voir si ça marche. La problématique, c'est que ça, faire le gros truc d'un coup, ça marche quand on fait une fusée Ariane. Quand on fait une fusée Ariane, on balance 100 millions en l'air, il ne faut pas que ça plante. Donc on fait tout pour que ça marche. Quand on fait une application mobile, on s'en fiche.
Si on ne parle pas
de SpaceX, justement, ils essayent de disrupter le marché. Et la fusée Ariane a pété beaucoup plus que SpaceX pour le moment. Mais oui, ils essayent de disrupter le marché en faisant moins cher et tout ça. C'est une autre approche. Mais du coup, même eux, ils se font attaquer.
Mais SpaceX, ils passent de quel côté? Ils font des petites releases ou ils font des...
Ils ont commencé il y a 4 ans, je crois.
Mais du coup, ils sont passés directement sur un produit parfait ou ils sont passés sur...
Je pense que c'est du projet très itératif.
D'accord.
Je pense. Après, c'est le... Voilà. Voilà, ça devient intéressant, mais ils ont fait des choses. Parce qu'en fait, côté droit, on a Airbus, on a Thales. Et qu'on a fait des projets, donc on fait des projets de pique avec l'INSA, c'est des projets avec les élèves. Et on était plusieurs entreprises à râler sur la méthode. Et donc, du coup, on a demandé à être pilote agile. Et en fait, 4 autres entreprises ont demandé à être pilote agile, sauf Thales ou Airbus, en gros, pour voir le principe. Et c'est parce que ça devient, malgré tout, au-delà de l'hype, ça devient une norme dans le jeu vidéo. Scrum est une norme dans le jeu vidéo, ça devient une norme dans l'entreprise. Pour ceux qui étaient là ce matin, à coup de cargo culte, à coup de plein de choses, mais ça devient une norme. Et donc, on a fait ce produit qui s'appelle Sagi Data Fabric, qui est la ligne d'assemblage pour gérer des process Big Data pour ingérer de la donnée, pour faire de la prédiction et pour déployer des applications avec tout le stockage. Ça, c'est la version 1.0, donc c'est la version de septembre-octobre. Au bout de 3 mois, on a eu une première chose. 3 mois, c'est long, mais on fait une plateforme as a service pour déployer des logiciels, ce qui est un peu plus compliqué. Et ça ressemblait à ça à l'époque. Donc juste pour vous indiquer, ce bouton ne sert à rien, celui-là non plus, celui-là, et quand on cliquait là-dessus, c'était du code en dur. Là, ça montrait les détails, vu qu'on n'avait qu'un ou deux clients, on mettait le code en dur et c'était fini. Mais ça permet de tester. Mais par contre, ce qu'on avait, c'était du stockage Big Data plus la possibilité de faire ça en Talend ou en Java. Dans le Big Data, c'est rien du tout, il y a 10 000 frameworks. Mais le client avait besoin de ça au début. Et ça, on l'a mis en prod le 17 juillet 2015, chez un premier client. Le login mot de passe, pour ceux qui font du web, c'est le login mot de passe tout moche, en gris, avec le pop-up qui redémarre, où il fallait mettre un login mot de passe pour tout le monde. On n'a pas investi dessus. Et par contre, avec ça, ils ont pu ingérer beaucoup de données et faire de gros calculs. Et donc, on a un premier client, pas très cher, on a de l'argent qui arrive. Ensuite, 2 mois après, au bout de 5 mois, on a une deuxième version. On a ajouté Spark et la Rockstar dans tout ce qui est Big Data. On a ajouté des réglages parce que c'était, nous, on devait les faire en support derrière pour que le client soit content. Donc, on dit, on va le faire en interface, comme ça, le client va le faire, etc. Et on a une nouvelle version. On a travaillé avec un freelance qui savait mieux faire du CSS que moi, parce que c'est moi qui avais fait le prototype au début. Et donc, c'est un peu plus joli. On a mis du Docker parce que ça, c'est utile pour gérer les technologies en bazar. On a mis du R pour les statisticiens. On ajoute des petites valeurs. Pour information, on revient sur les fusées, les noms des releases. Ce sont des étapes de la conquête de l'espace. Parce que le premier nom du projet, c'était Apollo 11. Et donc Valentina, c'est le premier satellite italien. Vous allez voir. On rajoute. Et là, on rajoute du Java, du notebook et surtout de la sécurité. Pourquoi la sécurité ? Parce qu'on a signé un deuxième gros client à nos retours de vacances. On a signé Caisse d'Épargne Normandie. Et si on travaille pour une banque, il faut de la sécurité. Ce qui s'est passé, je peux le dire parce que le DSI l'a dit devant plein de monde, c'est qu'il nous a appelé, il va dire, vous avez une semaine pour mettre en place la sécurité, sinon il n'y a pas de contrat. La sécurité et le big data, c'est antinomique, ça fait fuir des freelances et tout ça, et donc on s'est battu pour avoir un premier niveau de sécurité, et puis après pour l'améliorer. On continue, quelques mois en plus, on a rajouté d'autres niveaux de sécurité et d'autres gestions avancées pour le big data et tout ça. Et c'était le salon de Las Vegas et on a même fait du matériel pour simplifier la vente. Mais c'est pas le but, c'est un moyen pour simplifier la vente. Ça ne contient que 20 machines. La nouvelle qu'on sort, là, quand on contient 42, c'était une première itération. Et c'est même pire, c'est que si une machine tombe en panne physiquement, c'est-à-dire qu'elle est éteinte, on ne peut pas la redémarrer à distance, on est obligé de se déplacer. Mais c'était une première itération. Ça permet de tester. Parce que, en gros, ça m'a coûté environ 9000 euros de faire les deux premiers exemplaires en prototype. Là, la deuxième, c'est 4 fois le budget. Donc voilà, mais on a pu tester le marché avant. C'est de l'agilité aussi vis-à-vis de contraintes économiques fortes. Et ça continue, on rajoute des choses. On arrive à la 09, Astérix, le premier satellite français, de nouvelles fonctionnalités. Là, on a plus de 10 instances en production, ça commence à être sérieux, il faut que ça soit on blinde la qualité et tout ça. Et enfin, on arrive pas à la 1.0, mais à la 0.10. Parce que là, en fait, on n'arrivait pas à sortir à la 1.0. Ça faisait 2 mois et demi, on n'arrivait pas. Et j'ai fait, OK, on coupe à la 0.10. On va trouver un nouveau nom de satellite, c'est pas grave. Et là, on a juste la nouvelle interface, mais on n'a pas le nouveau moteur qu'on voulait mettre derrière, qu'on voulait absolument pour la 1.0, pour la pub de lancement et tout ça. Parce que la 1.0, c'est la première long-term support, c'est-à-dire qu'on s'engage auprès du client à la supporter pendant au moins un an. Donc, il fallait qu'elle soit bonne. Donc, du coup, on a fait, OK, on ne délivre pas assez de valeur. On coupe maintenant, on livre un premier lot de valeur et l'autre, on le livrera plus tard en 1.0 et on fera la com à ce moment-là. Donc ça, on l'a livré en août, exprès. Et après, enfin, on arrive sur la 1.0, Apollo 11, en thème support avec la fonctionnalité qu'on voulait. Et du coup, juste à quelques mois après, on a annoncé en novembre une levée de fonds de 4,2 millions. Parce qu'on avait itéré, parce qu'on a vu des premiers clients, sans cramer tout l'argent tout de suite et en testant, en modifiant dès le début. Ce qui fait qu'avec ça, on peut se payer des armées de commerciaux, enfin des armées, déjà une première équipe, et de marketeurs pour attaquer le marché. Parce qu'on a un premier produit stable et sur lequel on a une petite traction marché. Maintenant, on peut attaquer d'autres choses. On fait du B2B, donc la vente est longue et pas facile. Pour ça, il y a comment on attaque le marché, l'art de la guerre. On va revenir à nos amis mongols. Mais avant, vous pouvez être agile, prendre toutes les méthodes que vous voulez. Mais que ce soit ça du cycle en V, tout ce que vous voulez, du Kanban, du XP, etc. Si votre code est pourri, vous mettrez toujours trois plombes à sortir une fonctionnalité. Donc pour ça, c'est comment on s'occupe de son code. Donc ça, c'est 24. C'est un speaker international. C'est peut-être un héritier des moguls, la partie mongole qui est venue en Inde. Et c'est une conférence sur tout ce que pour sentir les codes smell, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le code qui fait que ça va être chiant, que ça va être long à faire. Et en gros, c'est ce qu'on appelle ça la dette technique. La dette technique, c'est j'ai voulu faire quelque chose rapidement pour livrer à telle heure, mais j'ai dû faire des raccourcis. La dette technique, c'est je paye des intérêts sur les raccourcis que j'ai pris pour pouvoir faire d'autres fonctionnalités par-dessus. Donc plus vous faites de dette technique, plus vous payez d'intérêts, de temps, pour ajouter des fonctionnalités, plus une fonctionnalité va mettre du temps à sortir. Donc si vous avez trop de dettes techniques, c'est-à-dire que c'est vraiment lourd, vous êtes mort dans 18 mois. C'est-à-dire quand vous devrez pivoter un petit peu et rajouter une fonctionnalité, vous allez mettre trop de temps. Je prends l'exemple d'une société qui s'est fait racheter il y a quelques temps, qui est aussi normande, qui s'appelle Bunker. Qui a déjà entendu parler de Bunker ? Personne. Donc c'était du PowerPoint en ligne. Et ils ont fait une première version qui marchait, mais ils ont vraiment rushé. Et donc, il y avait une grosse dette technique. Et à un moment donné, ils ont fait une levée d'1 million d'euros. Et dès qu'ils ont voulu ajouter des fonctionnalités, ils ont vu que c'était trop compliqué. Donc, ils ont dit, on reboot tout, on refait tout le code. Et donc, pendant 6 à 8 mois, en dépensant la moitié de la levée de fonds, c'est des chiffres à peu près, hein, je ne suis pas dans les chiffres, mais c'est pour le principe. Mais ils ont fait la nouvelle version et pendant ce temps-là, ils n'ont fait aucun appel au marché, ils ont fait très peu de publicité, ils ne sont pas attaqués au marché pendant que les autres continuaient. Et c'est un exemple de ça, quoi. Si à un moment ils avaient trop de dettes techniques, ça fait qu'ils ont obligé de remettre au pot pour pouvoir continuer. Ou de prendre sur les autres budgets. Si vous n'avez pas de dettes techniques, vous êtes un mort vivant. C'est-à-dire que vous avancez sur votre produit, mais vous êtes mort, mais vous ne le sortirez jamais de toute façon. Vous ne le savez pas encore. Parce que en France, on est très bon en ingénierie. Par contre, j'étais quand je suis sorti d'école, je faisais des choses beaucoup trop compliquées. Il y a des choses que j'ai vues une fois sur Twitter, c'est un développeur Java débutant qui fait son Hello World classiquement. Ensuite, le développeur Java a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et après, au bout de 4-5 ans, il fait des trucs très compliqués avec 2 EJB à l'époque du XML et tout ça. Et le développeur Java de 10 ans, il fait juste le truc simple comme il faisait dans les études. Juste le truc qui suffisait, le bon compromis. Parce que si vous faites ça, de toute façon, vous ne serez jamais né parce que ça ne marchera jamais en fait. C'est très très compliqué à faire. Là où j'étais avant, on sortait une fonctionnalité tous les 10 mois. Sans quelque chose d'existant. Ça veut dire que les marchés, on ne les attaquait pas. Le marketing était frustré, les vendeurs étaient frustrés, tout le monde était frustré. Parce que le Level Engineering, ça veut dire que le vaisseau sur le côté, là, c'est pas très intéressant pour descendre une montagne au milieu des arbres dans la forêt. Le vélo, il est peut-être plus adapté. Donc des fois, c'est toujours un bon compromis à faire. Mais revenons à nos Mongols. En fait, ce qu'ils ont fait pour battre les différentes parties, c'est qu'ils ont mis des petites équipes, des petites squads, des petites équipes autonomes. Et donc, ils ont inventé beaucoup de tactiques sur le terrain pour s'adapter au terrain. Ils ne savaient pas comment battre un adversaire, ils ont inventé des tactiques dessus. Donc là, je fais plein de petits groupes dispersés, comme ça, l'ennemi attaque, et à la fin, ils regroupent d'un coup pour faire croire qu'ils sont beaucoup. On a toute la partie pour entourer les personnes. Ensuite, le fait d'avoir toujours un feu sur l'ennemi permanent. Et enfin, la meilleure, c'est qu'ils envoient une petite troupe. L'ennemi, il fait « Oh, ils sont nuls, ils sont pas beaucoup, je vais les attaquer. » En fait, la petite troupe, son rôle, c'est de les amener à un point défini à l'avance. Et derrière, on a toutes les armées qui arrivent sur les flancs. Donc, c'est une fausse retraite, en fait. Et en fait, le principal point entre tout ça, c'est qu'à chaque fois, on a des petites équipes autonomes qui s'adaptent au terrain, etc. C'est des petites équipes autonomes à chaque fois. On viendra sur le mode d'organisation après. Et donc, ce que j'ai fait au niveau de l'organisation, c'est on a une première équipe, une deuxième. C'est des équipes autonomes qui ont une mission spécifique. Il y a la nouvelle équipe que je monte, c'est une équipe qui sera totalement en télétravail, parce qu'au bout d'un moment, à Rouen, il n'y a pas autant de développeurs qu'on le souhaite. Et leur objectif, c'est de libérer, de délivrer la donnée. C'est qu'ils prennent des neiges, entre guillemets. L'objectif, c'est que toute la donnée qu'il y a dans le lac de données, ils puissent le montrer aux autres. Et pour vous montrer ça, cette équipe, elle a démarré le 2 janvier. On avait le salon du Big Data lundi et mardi. Et le 2 janvier, il y avait zéro ligne de code. Moi, j'avais zéro story de rédiger, je les avais dans ma tête. Et on a fini le vendredi, il y a 10 jours, pour pouvoir faire toutes les screens, pour pouvoir envoyer au monteur vidéo, pour que ce soit sur le site le 1er mars, et qu'on puisse le présenter le 6 et 7 mars. Et on avait quelque chose de stable, de joli, et avec de la valeur. Alors, il n'y a aucune authentification. Il y a un bouton admin, tu cliques sur admin. Si tu crois que tu es admin, mais en fait, on a juste fait un switch d'affichage. Mais ça permet de vérifier s'il y avait une appétence chez les clients. Et du coup, on l'a déployé chez 3 clients test, dont 2 gros comptes, qui acceptent cette partie-là parce qu'ils ont des choses très rapidement. Et nous, on a des données de différents clients, de différents profils. Parce que l'objectif, c'est vraiment de s'adapter. Donc, ils choisissent leur langage de programmation, ce n'est qu'un moyen, leur framework, leur workflow, Kanban ou pas. Chacun choisit la manière dont il préfère travailler ensemble. Quand on est une équipe de 2, la méthode, on s'en fiche. Il faut juste travailler. Quand on est plusieurs, il y a plus d'interactions. Et donc là, les gens vont commencer à s'organiser, à faire des délits, etc.
Pour les non-informaticiens, ça
Alors, en fait, ils vont choisir leur langage. Ça veut dire qu'ils vont travailler en PHP, en C. C'est une manière de coder qui est différente. C'est par exemple, si tu codais en espagnol ou en anglais, c'est pas la même chose. Il y a même un langage en français qui s'appelle WinDev, où tu codes en français, tu fais si, drapeau vrai, etc. Alors que tous les langages sont en anglais, if, quelque chose. Et en gros, dans les grands groupes, on vous dit, vous utilisez tel techno, tel framework. Bon, ok, c'est plus utilisé depuis 10 ans, mais c'est la norme, vous utilisez ça. Et vous utilisez tous la même méthode. Comme ça, moi, pour mon monitoring, ça me simplifie. Et ce que ça donne sur le terrain, c'est que les équipes n'arrivent pas à s'adapter et ont des productivités de daube. Comme ils ont beaucoup d'argent, c'est pas grave. T'es une banque ou une assurance, l'argent, elle rentre tout seul. Hein. Il faut quand même s'adapter au marché. Tu fais ça en start-up, bah, tu coules. Parce que ta quantité d'argent est limitée. Ta durée de vie est limitée. C'est plus clair? Et donc ceux-là, ils sont responsables de la dette technique. C'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain, qui codent les nouvelles fonctionnalités, c'est eux qui connaissent les peines, donc ils sont responsables de leur dette technique. Ils ont eu leur propre comment, ils gèrent des choses. Moi, je regarde de temps en temps, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs qu'on met. Et eux, ils choisissent ça. Et moi, en tant que directeur technique, je ne fais que arbitrer s'ils ne sont pas d'accord entre eux. Parce que vraiment, ils savent où est le problème. Et même, je leur demande des fois, si vous avez besoin de faire quelque chose rapidement, je ne suis pas là parce que je suis en déplacement. Ne demandez pas la permission, faites-le parce que vous pensez que c'est bien et vous vous demanderez le pardon après. Mais dans tous les cas, je préfère que vous fassiez quelque chose ou pas. Parce que c'est la survie de la compagnie qui est en jeu. C'est une course qu'on fait. Pour toutes les startups, c'est une course. Dans le big data, c'est la méga course en ce moment. Donc c'est vraiment une bataille à long terme. Et donc ce qu'ils font actuellement, c'est que tous les mercredis, ils font ce qu'ils appellent des BTE, des backlog techniques. Et c'est eux qui choisissent les priorités qu'ils font, et moi je leur donne que les gros arbitrages s'ils ont besoin. Ils sont autonomes. Si vous faites ça sans test automatique, c'est-à-dire en vérifiant automatiquement que mes changements ne cassent rien, et sans test d'intégration entre composants, ça va être très compliqué. Parce que moi, ils changent 30% de leur code par mois environ. Parce qu'on a un corps qu'on change tout le temps, parce qu'il doit améliorer les performances. Si vous avez quelque chose d'automatique pour vérifier que vous n'avez pas cassé les 20 fonctionnalités que vous avez fait avant et que vous ne voyez pas, que vous êtes aveugle, ça va être compliqué. Et en startup, c'est dur, hein, parce que ça change tellement vite que la pérennité des tests est. Un test est valable dans un instant assez court. Et ça, c'est pas que pour le logiciel, c'est qu'on déploie des appliances chez le client, on fait du support, on fait du recrutement. Le recrutement, c'est un immense Trello où il y a plein de choses. Et donc, ici, vous avez un Trello. Donc, dans le Trello, souvent, on fait de la modélisation. On teste des flux parce que c'est facile à configurer. Et après, on le passe sous Jira où là-dessus, on a quelque chose où je peux voir plus de data, je peux mesurer plus de choses. Et c'est... Trello, c'est en fait, tu définis tes cartes, tu définis des colonnes et tes cartes, tu les places sur les colonnes. Tu peux affecter des personnes ou tu peux affecter des couleurs pour les catégorifier. En gros, si tu veux organiser quelque chose, tu mets tout tes tâches dans le Trello. Et souvent, tu as ce que je dois faire, ce qu'on priorise, ce qu'on fait, ce qui est bloqué, ce qui est en test et ce qui est fini, en gros. Ça peut marcher pour organiser quelque chose avec tes copains, pour être sûr de ne rien oublier. Et donc, dans chaque carte, il y a des descriptifs de ce qu'il faut faire. Par exemple, pour une organisation de conférence, il y a réserver les tables. Et il y en a qui renseignent le nombre de tables qu'il faut et tout ça. Il y a réserver le traiteur, prévoir l'accueil des speakers et tout ça, réserver le restaurant, etc. Ça, c'est des tâches indépendantes et on va savoir qui l'a fait. Et dedans, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Après, il ne faut pas hésiter à discuter. Et ça permet d'avoir un suivi global et surtout de voir s'il y a beaucoup, si on est en avance ou on est en retard. Et ça, en fait, les étiquettes, c'est les cartes, ça, c'est des étiquettes. Kanban, c'est étiquette. Si vous prenez Kanban, ça vient du toyotisme. En gros, le Japon, après la guerre, tout est ravagé, ils n'ont pas de thunes. Et donc, quand Toyota s'est monté, ils sont montés avec très, très peu d'argent, très, très peu de moyens. Et c'était pour tout le Japon pareil. Donc, quand les Américains faisaient des grosses voitures qui consommaient beaucoup, qui étaient du must, eux, ils avaient des petites voitures qu'ils amélioraient en continu. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils étaient comme une start-up. Et si vous prenez une usine Toyota même maintenant, il y a de l'informatique pour ce qui arrive et pour ce qui sort. Au milieu, il n'y a pas d'informatique. Vous avez des grands bureaux où il y a visualisation sur l'ensemble de la chaîne et ils visualisent les stocks à chaque fois. Et le Kanban, c'est l'étiquette que vous avez sur chaque lot pour vérifier que telle pièce est arrivée jusqu'au bout et à chaque fois qu'on passe la pièce d'un îlot à l'autre, on marque la date, l'heure et tout ça. Et comme ça, on peut mesurer dans quel îlot on consomme du temps en moyenne. Et par exemple, si vous prenez du développement, vous avez une carte qui est dans le backlog, vous la priorisez. Ensuite, elle est prise en développement. Ensuite, il y a des tests, de la relecture. Et après, elle attend le déploiement, puis après, elle est déployée. Souvent, on pressurise les équipes sur le développement. Si vous prenez une analyse Kanban, vous pouvez mesurer combien de temps elle a passé en chaque étape. Et combien de temps, c'est aussi le temps d'attente. Il y a entre « je mets la carte et c'est fait ». Je veux mettre une carte pour réserver mon restaurant et mon restaurant est réservé. Le développement, c'est entre 10 et 20% du temps passé. Souvent, le temps est perdu au test et le reste, c'est que du temps d'attente pour qu'il y ait quelqu'un qui la teste ou quelqu'un qui la déploie. Et en fait, ça permet d'avoir une autre vision. C'est au lieu de faire des optimums locaux, on va dire j'ai optimisé le test, j'ai optimisé ça, c'est d'avoir un optimum global. Je prends un exemple avec Le But, qui est un livre sur l'amélioration continue. C'est en gros, il n'arrivait pas à améliorer son usine. Et pour faire ça, à un moment donné, il a dit je vais prendre une journée pour aider les gamins de l'école, on va faire une randonnée. Et en fait, il y avait quelqu'un de plus gros qui traînait toujours la patte. Donc, ce qu'il a fait, c'est au début, il était toujours derrière, mais du coup, les autres devaient l'attendre, etc. Donc, après, il l'a mis devant. Et du coup, tout le monde est ralenti. Et ce qu'ils ont fait, au bout d'un moment, ils l'ont mis au milieu. Et surtout, ils ont pris son sac à dos et ils ont réparti son sac à dos sur l'ensemble. C'est-à-dire que si tu as une chaîne qui produit à fond et l'autre chaîne qui est très lente, ça ne sert à rien de mettre des personnes sur la première chaîne. Il faut mettre des personnes sur la deuxième. Parce que de toute façon, tu vas accumuler du stock. Du stock, c'est de l'argent. Dans le développement, un code que vous faites qui n'est pas devant le client, c'est du stock, c'est de l'immobilisation, c'est de l'argent qui n'est pas utilisé, que vous avez investi ou sur lequel vous n'avez pas de valeur. Et donc, ce qu'on fait, pour revenir au mouton, c'est qu'en gros, dans Trello, on expérimente un Kanban. Et une fois qu'on l'a bien, on le met dans Jira. Dans Jira, on a plein d'API pour faire plein de mesures, c'est plus efficace. Et ça, j'ai fait la slide avant que Jira ne rachète Trello pour 400 millions au mois de janvier. Voilà. Et du coup, en fait, Trello, c'est la partie simple pour apprendre et Jira, c'est la partie professionnelle pour avoir toutes les stats. Et donc, avec ça, on peut faire des statistiques. Le lead time, c'est je mets quelque chose, il y a quelque chose qui sort. Je peux voir des coûts moyens par story et on va parler de no estimate après. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des Mongols, c'était à peu près le premier Internet du monde. C'est que leur point fort, c'était la communication entre les villes. Il y a la route de la soie qui passait près d'eux. Et en fait, le principe, c'est que la moindre connaissance, la moindre nouveau produit qui était conquis, Bah, fallait que ça arrive le plus vite à Oulan-Bator central. Donc ils avaient construit des routes, des moyens de transport très rapides. Et du coup, toutes les villes qui étaient conquises par les Mongols étaient riches parce qu'il y a plein de biens qui passaient par leur ville. Donc les gens étaient plus riches après, donc il y avait la paix. Mais c'est ce qui les a tués. Parce qu'à la fin du Moyen-Âge, il y a eu la peste. Ça a tué plus d'un tiers, je crois, des personnes en Europe. Et ils ont mis des années à savoir d'où ça venait, la peste. Maintenant, on le sait, mais ils ne savaient pas. Ils ont suspecté plein de choses. Et donc, ça venait des rats. Et quand ils transportaient des marchandises, ils transportaient des rats. Donc, ils transportaient la maladie. Et ils ont transporté la maladie très, 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 très vite. Et du coup, après, ils ont coupé les communications. Et quand ils ont coupé les communications, ils ont coupé les flux de richesses. Les villes étaient plus pauvres et les villes se sont révoltées et ça s'est disloqué au fur et à mesure. Et donc, pour avoir un système de logistique très rapide en interne, ce que je mets en place, c'est des équipes de support. C'est un peu le modèle Spotify. C'est-à-dire quoi, au lieu que... Qui est dans une DSI un peu importante où il y a une équipe d'exploitation? Une équipe de QA? Personne? Ok, ça va être dur à expliquer. Donc, si grosso modo, il y a des product managers qui pensent à des fonctionnalités, ensuite il y a des développeurs qui font des choses. Et ensuite, on a une équipe de QA qui teste si la chose est valide et fonctionne. Et tant que c'est pas valide, ils renvoient au dev, etc. Puis après, une fois que c'est testé, il y a l'équipe d'exploitation qui va déployer l'application mobile, l'application web et tout ça. Et en fait, on a deux goulots d'étranglement. On va avoir trois à la fin. Mais si vous prenez n'importe quel DSI, le goulot d'étranglement, c'est les tests. Parce qu'il n'y a pas assez de testeurs. Chez Apple, la partie testeur versus développeur, il y a beaucoup plus de testeurs que de développeurs. Alors que dans les DSI, c'est plutôt l'inverse. Et plutôt qu'essayer de reproduire ça, parce qu'en fait, qu'on a une équipe de QA de test, ça veut dire qu'on a quatre équipes qui ne testent pas. Hein. Vous vous dites, ah, c'est la QA, c'est pas nous. C'est d'avoir des équipes qui accélèrent, c'est-à-dire que les équipes autonomes, elles livrent en production elles-mêmes. Chez Amazon, c'est you build it, you run it. Vous le codez, vous le déployez. C'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui vous levez la nuit. Le problème, c'est que la nuit, tout le monde ne veut pas, donc souvent, on met une équipe d'infrastructure. Mais l'équipe d'infrastructure, souvent, elle va bloquer parce que son but, c'est la stabilité. Et le but des développeurs et des product managers, c'est d'avoir de nouvelles fonctionnalités. Donc les deux, ça ne marche pas. Donc là, plutôt, je mets des équipes de tests et d'infrastructures qui viennent aider les équipes. Et là, donc, il y a une testeuse qui est arrivée chez nous. Et en gros, les équipes se battent pour l'avoir parce que quand elle arrive, elle détecte tous les trucs qui ne vont pas. Donc ça permet de les avoir avant que ça arrive chez le client. En fait, c'est un service qu'ils utilisent pour aller plus vite. Ce n'est pas forcément facile à mettre en place. Ça, c'est extrait des vidéos de Spotify. C'est des choses que j'ai reprises sur la partie infrastructure et test. Enfin, il y a souvent deux temps, le temps de guerre, le temps de paix. Et pour ça, j'ai, comme les Mongols, j'ai été piller une présentation de quelqu'un d'autre, qui est la présentation sur la culture de Netflix. Bon, Netflix, c'est une culture très dure. Hein. C'est-à-dire qu'on fait 3 ans chez Netflix, on n'a plus de vie, mais à la fin, on est le meilleur du monde. En gros, ça convient à des personnes ou pas à d'autres. Et dedans, il y a une partie intéressante qui est le contexte, notre contrôle. En gros, le truc, c'est si vous voulez traverser une rivière ou traverser une mer, ne dites pas aux gens de construire un tunnel ou un pont. Dites-leur, je veux aller de l'autre côté. La mission, en fait, quand moi, je suis en tant que directeur technique, je fais aussi product manager. Même en tant qu'ingénieur, j'essaye de jamais dire comment je fais. Comment je ferai, je dis, je voudrais ce comportement-là cible, même si j'ai très envie de le faire. Et après, c'est à l'équipe de choisir comment ils vont y aller. Donc du coup, ils en sont responsables. Donc ils vont le défendre et ils vont assumer des choix pour le faire. Ça permet en gros de donner de la puissance à l'équipe et de les responsabiliser. Parce que je rappelle qu'en développement, il y a assez souvent des Bac+5, des Bac+3, des Bac+2. C'est des gens qui ont des familles, c'est des gens qui achètent des voitures, qui achètent des maisons, des appartements, qui font des choix d'adultes. Si on les traite comme des enfants, il ne faut pas vous attendre à avoir autre chose que du comportement d'enfant. Là, l'objectif, c'est de leur donner, voilà, la mission, c'est de faire ça, vous êtes assez grand pour le faire. J'ai le même niveau de diplôme qu'eux. Hein. Et donc, mon objectif, c'est d'avoir à leur mettre le meilleur contexte possible pour qu'ils puissent se concentrer sur leur travail. Qu'ils apprennent des choses, qu'ils aient du temps pour réfléchir et qui passent pas soit trop de temps en réunion, soit trop de temps à faire des choses qui servent à rien. Et donc le point, c'est il y a le contexte et le contrôle. Le contrôle, c'est ce que vous connaissez dans les sociétés traditionnelles, où en gros, c'est très hiérarchique, et il y a un manager qui a des chefs de projet, qui vérifient le travail des autres, etc. Et ensuite, on attribue à des ressources, donc des personnes. C'est pour moi une ressource, une table. Hein. Une personne, ça a faim, c'est fatigué, ça baise, c'est pas tout le temps la même humeur. Donc c'est pas parce qu'on le met dans une case Excel, ça va être pareil tous les jours. Et il y a l'autre manière où on leur donne la stratégie cible, la mission, le contexte, et du coup, elles vont construire leur propre société à l'intérieur. Après, c'est à nous de leur donner des rôles clairs pour que ça marche bien. Par contre, des fois, il faut s'adapter à la réalité du terrain. Donc ça marche très très bien quand vous avez des développeurs, mais on peut dire ingénieurs en global, qui ont plus de 6-7 ans d'expérience et tout ça, parce qu'ils ont connu notre contexte, ils connaissent les avantages et les inconvénients, ils savent comment se comporter. Quand on a des équipes très jeunes, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas encore les gammes. Et à l'école, ils ont appris la compilation, plein de choses, mais ils n'ont pas appris à travailler en équipe. Ils n'ont pas appris à faire des projets. Et donc le truc, c'est que les juniors, c'est la slide d'après, donc l'objectif, c'est que les juniors, on les cadre un peu plus. Nous aussi, on peut se tromper, nous aussi, on a le droit au changement. Et donc les équipes de seniors, c'est des équipes autonomes qu'on empower, c'est-à-dire qu'on leur donne la responsabilité et qui s'améliorent elles-mêmes. Sur les équipes juniors, on en a sur les premiers accompagnements, on avait des équipes trop juniors, donc du coup on a corrigé. Donc là on met un peu plus de contrôle, on les met en position d'apprentissage avec des mentors. Et au début on leur donne un fonctionnement standard. Vous fonctionnez comme ça, standard, et une fois que vous êtes à l'aise, vous pourrez l'améliorer. Mais au début vous fonctionnez comme ça, vous apprenez. C'est pour ça que souvent on conseille Scrum pour les équipes juniors, parce qu'on suit un cadencement, on apprend des règles de base. Donc ça c'est une leçon qu'on a apprise. En fait, j'avais mis la même chose pour des seniors et des juniors et ça n'avait pas bien marché sur les juniors. Et sur les seniors, ça marche du feu de Dieu. C'est-à-dire que l'application qu'on a livrée en 2 mois, c'est des équipes de seniors. Il n'y a pas un chef de projet, il n'y a rien. Et ça a été livré à temps et avec de la qualité et avec de l'écoute client. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, c'est comment on grandit, comment on a une scalabilité plus importante. Je vérifie l'horaire, c'est bon. Donc pour ça, on est très maigre, on est très lean dans le fonctionnement. Est-ce qu'il y en a qui étaient à la conférence de Fred Le Guédois juste avant ? Oui. Donc il a beaucoup parlé de gâchis. Oui. Le muda, c'est ça, c'est du gâchis en japonais dans le toyotisme. C'est pas juste j'ai une pièce qui sert à rien, c'est je fais une action qui ne sert juste à rien. Et ça peut être du temps d'attente, ça peut être des déplacements qui servent à rien et tout ça. Donc pour ça, on est une start-up, on est petit, donc on a un historique de personnes qui est faible. Donc quand quelqu'un a un comportement très négatif, on peut s'en passer. C'est dur, mais des fois, si on garde ces personnes-là, les meilleurs s'en vont. Et donc, la boîte s'en va. Donc, c'est un luxe qu'on peut savoir. Bon, des fois, c'est dur, hein, ça s'accroche beaucoup, mais c'est autre chose. On n'a pas de meeting d'architecte. J'en faisais plein avant. Et je me rendais compte qu'en fait, il y a certaines parties, moi, je ne connaissais pas, et d'autres parties, les autres ne connaissaient pas. Donc, et en fait, il n'y en a aucun qui codait vraiment dans la journée. Et pour moi, ça, l'architecture, c'est ceux qui font, c'est les codeurs qui font l'architecture. Il n'y a pas de QA, comme j'ai expliqué. Il n'y a pas de chef de projet sur la partie produit. Il y a des équipes qui travaillent ensemble, qui s'auto-organisent et qui commencent. On a des chefs de projet sur la partie accompagnement client. C'est pour gérer la politique des clients. En gros, hein, je caricature, mais c'est quasiment ça. Mais sur la partie produit, pour moi, ça, c'est du gâchis. Il n'y en a pas. Et surtout, le premier qui me fait un gant, il est viré. Et le premier qui me fait une estimation, il va y avoir des problèmes. Souvent, cette partie-là choque des personnes. Mais posez-vous la question. Est-ce que ça a une valeur quand je veux livrer un produit au client, quand je veux livrer une valeur au client? Le fait qu'on ait estimé ou livré à l'heure, est-ce que ça a vraiment un intérêt? On est dans une activité non productiviste. Sur la partie core big data, on intègre des frameworks big data, je peux vous dire que c'est la roulette russe. Hein. Le big data est connu pour avoir des trucs pas stables, je vous le confirme, et le temps qu'on le stabilise pour nos clients, c'est compliqué. Et pour moi, ça n'a aucune valeur de donner une estimation à une tâche qu'on va faire. Faisons-la de toute façon, c'est de l'informatique, c'est jamais pareil. Même si ça a l'air d'être pareil. Une fois, j'ai un commercial qui m'a dit, ouais, mais c'est tout le temps pareil. Je fais, si c'est tout le temps pareil, viens le faire. Viens sur l'ordinateur, viens le faire. Et après, il y a moins de personnes. Mais c'est vraiment un changement. Et pour information, fin juin au NWX Summer Festival, j'ai fait inviter quelqu'un pour parler de ça. En quoi ça améliore vos process de ne pas faire d'estimation? Mais c'est vraiment quelque chose. Mon but, c'est de la valeur au client. À temps, avec un budget restreint.
Et du coup, s'il y a, je suppose qu'il n'y a pas non plus de deadline, s'il y a une idée d'estimation.
Sur des releases, il n'y en a pas. Sur des releases, il y en a.
Parce que comment est-ce qu'on arrive à justement motiver les personnes qui travaillent? Parce que je sais que par exemple, sur des équipes, s'il n'y a pas de deadline, les gens ne se sentent pas forcément motivés. Ils ne savent pas s'ils doivent travailler beaucoup, c'est le moment où ils peuvent y aller tranquillement.
Bon, en fait, je vais expliquer un point de pourquoi j'aime pas Scrum. C'est qu'en général, c'est 2 semaines. Donc au début, on commence doucement, on fait des réunions, tout ça. Puis après, on est à la fin, il nous reste 3 jours, on fait ah oh, zut, on n'a rien de prêt dans ce qu'on avait dit. Donc là, on rush à mort, on crée plein de dettes techniques. Et après, le sprint d'après, on est fatigué, donc on y va doucement. Puis après, on rush à mort. Donc souvent, pour être plus rapide, il faut des fois ralentir le rythme. Parce qu'on a moins de bêtises à rattraper. Souvent, des fois, il est 18h, on n'arrive pas, ça fait 3 heures qu'on y est, on n'arrive pas. Des fois, il faut mieux arrêter. Reprendre le lendemain, et le lendemain, vous allez résoudre vos problèmes en 5 minutes. Et ça est valable pour d'autres problèmes d'ingénierie et tout ça. Et il y a des trucs, il y a des cas où on a des deadlines clients, on doit les respecter parce qu'on a promis, etc. Et donc, moi, ce qu'on joue, c'est que mon équipe est fixe, donc mon budget est fixe. Le délai, des fois, il est fixe ou il n'est pas fixe. Là où je joue, c'est sur le périmètre. Je dis, ça on coupe, ça on coupe, ça on coupe, on sort le truc qu'on avait promis, le reste on coupe. Donc je joue sur le périmètre. Tu ne peux pas avoir les 3 en même temps. En gros, pour une release, quand tu fais une release, tu livres 4 fonctionnalités. Celle-là, il faut absolument qu'on la sorte. Celle-là, elle est importante. Celle-là, elle est sympa. Celle-là, elle est sympa. Il te reste 2 semaines pour la faire. T'es sur celle-là, tu n'arrives pas, celle-là, tu l'as fini. Moi, ce que je fais, c'est, ok, celle-là, on l'a fini, on la prend. Celle-là, on met tout le focus dessus, les 2 autres, on les dégage. On les livrera après. C'est ce que j'ai fait sur la 010. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dit, on n'arrive pas à sortir, on sort un premier périmètre. Parce que déjà, ça permet de livrer en prod et de voir des problèmes et de les corriger tout de suite.
Périmètre, c'est ce que tu appelles sécurité, en fait.
Périmètre, c'est un ensemble de fonctionnalités. Et les priorités, c'est dans quel ordre tu veux tes fonctionnalités. Et la priorisation, c'est très simple, c'est une chose après l'autre. Et donc, moi, je suis le CTO, mon dialogue, c'est avec le CEO, ça veut dire, c'est tu veux ça ou ça. Il ne peut pas avoir les deux, faut qu'il choisisse. Ou faut qu'il trouve des millions d'euros à côté. C'était quoi ta question initiale?
À la base, c'était par rapport au deadline.
Au deadline. Et des fois, on en a, donc des fois, on coupe les fonctionnalités. Par contre, on est sur de la sécurité, des fois, on doit dire, bah, on prend plus de temps, vous serez livré à l'heure. On est un éditeur. Donc là,
ma question, c'est plus par rapport aux motivations, parce que je sais que...
Oui, ah oui, ok. Bah, si tu fais un truc où tu fais l'assignation de tâches, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, c'est sûr que les gens ne seront pas motivés. Si vous leur dites d'aller de l'autre côté du pont et d'obtenir ça, c'est plus facile. Par exemple, à un moment donné, on devient une fonctionnalité, elle était chiante. Je leur dis, je change les priorités parce que c'est pour tel client et ce tel client pourrait devenir un investisseur. Cette fonctionnalité, c'est 1 million d'euros en jeu. Et ça, je peux le dire, je suis dans les fondateurs, j'ai le droit de leur dire. Et du coup, ils font, OK, on a compris. N'y a pas besoin d'expliquer plus, il n'y a pas besoin d'expliquer, machin, un truc comme ça. Dans la société où j'étais avant, on devait faire un truc qui n'avait aucun sens. Et on ne comprenait pas. J'expliquais, mais on n'arrive pas, les gens sont démotivés, etc. Et à la fin, j'ai su pourquoi. C'est parce que le truc qui n'avait aucun sens, le client avait demandé, et si on lui donnait ça, il nous donnait le contrat d'à côté. Là, on perdait de l'argent, mais là, on en gagnait plein. Et une fois que tu expliques ça, c'est plus simple. Tout le monde gère de l'argent. Donc ça s'explique.
Je parlais plutôt au niveau de la gestion du temps, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on sait qu'on doit se dépêcher, et des moments où on sait qu'on ne doit pas forcément.
Bah, moi, j'essaie d'avoir les choses le plus stable possible. Et après, tu as toujours des bouts de rush et tout ça. Mais j'essaie d'avoir le plus stable possible. D'avoir quelque chose de soutenable dans le temps. Parce que c'est pas des sprints, hein, c'est un putain de marathon. Et là, ça fait 3 ans. Et donc, c'est dur. Mais c'est, voilà, j'essaie d'avoir quelque chose de plus stable dans le temps. Le temps, tu ne peux pas le changer. Hein. Tu peux juste, moi, je peux juste optimiser en mettant de meilleures conditions. Là, par exemple, je sais que je vais leur faire une coupure d'une journée pour qu'ils fassent autre chose. Parce qu'ils sont dans le rouge depuis 3 mois. Parce que là, les recrutements, on avait levé en novembre, le temps de recruter, les gens, les nouveaux arrivent en avril et mai. Et pendant ce temps-là, bah, on a plus de traction, mais on a toujours la même équipe le temps que les gens arrivent. Donc là, je sais qu'à un moment donné, je dois libérer de la journée, etc. Mais tu ne peux pas échanger. Et le fait que tu es estimé ou pas ne changera jamais rien à ça. Pour la petite histoire, moi, je mettais toujours 42 à toutes les estimations que mon management me demandait. Ils ont mis 6 mois à s'en rendre compte.
Donc,
oui, voilà, de choux, de patates, d'heures, je ne sais pas comment ils te redisaient ça, mais j'en mettais toujours 42. Ils ont mis 6 mois à s'en rendre compte. De toute façon, moi, je me débrouillais pour que les stories, les morceaux de fonctionnalité soient toujours à peu près égales. Et moi, ça me prenait 30 secondes à faire. Et pendant que ça, moi, j'avais économisé 6 heures, 3 fois 9 à l'équipe, 3 heures fois 9 personnes. Et pendant ce temps-là, ils ont fait des choses, ils ont créé de la valeur. Là, pour un client, on a fait des choses, on le fait en mode startup. Vous avez un budget fixe et vous avez le droit de changer d'avis tout le temps. Et donc, c'était une équipe métier qui n'avait pas d'informaticien et qui avait besoin de faire quelque chose au-dessus de notre plateforme. Donc, on a une équipe de service qui accompagne ça. Et à la fin, ils ont dit « Ouais, c'était bien, mais on n'a pas fait de réunion de planning. » Je fais « Bah oui, mais pendant ce temps-là, on vous crée des fonctionnalités. » Je fais « Ah ouais, vu comme ça. » Voilà. C'est des choses. C'est-à-dire que quand tu fais du planning, Scrum de base, tu as le planning. En théorie, c'est 1 heure. En pratique, c'est 3 à 4 heures. Ouais. Pendant 3 à 4 heures, les gens ils font pas autre chose. Et tu fais 3 fois le nombre de personnes, fois le salaire.
Mais là-bas, ça permet quand même d'avoir une vision de la chose. En fait. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que dans une organisation qui est un peu floue, disons où les gens ne sont pas forcément d'accord ou pas forcément au courant de toutes les choses,
ouais.
Genre, ça peut très facilement partir en anarchie. Mais, je sais pas comment le dire.
Contrôle versus contexte. En fait. Si tu fais confiance ou tu fais pas confiance. Moi, je fais confiance a priori. Oui, c'est une opinion personnelle. C'est pas la vérité, c'est une opinion. C'est soit tu fais confiance, soit tu fais confiance. De toute façon, ton planning, il est faux la seconde d'après où tu l'as fini. Dans une mission il y a 7 ans, j'avais mon chef, il devait passer son temps à remettre à jour le planning en fonction des merdes qu'on avait. Il pétait un plomb. Hein. Voilà. Mais voilà.
Grâce à un diagramme de Gantt, justement, ça prenait 2 secondes à le changer et on avait à peu près une vision de à peu près quand est-ce qu'on devrait pouvoir le finir. Ça a changé tous les jours.
T'as bossé combien de temps à l'entreprise?
C'était un stage de 4 mois.
Ok. Tu verras. Tu verras. Moi, je.
Non, je dis pas que c'est.
Moi, j'ai vu. Je l'ai vu en terminale, en prépa et en école d'ingé. Je connais par cœur. Hein. Mais au bout de 6 mois, j'avais abandonné. Ça ne servait à rien. Je suis arrivé sur un projet qui devait mettre 3 semaines. À faire, et il avait déjà 3 semaines de retard. On l'a fini dans 3 ans. 3 ans après. Voilà. Tu sais pas, c'est du doigt mouillé. J'ai un développeur qui jouait avec lui quand il estimait, il mettait des dés. Il avait aussi faux que les autres.
Il y avait aussi la pression du client qui demandait toujours quand est-ce qu'on l'aura, quand est-ce qu'on l'aura, quand est-ce qu'on l'aura.
Bah,
ça, un diagramme de Gantt, ça permettait de lui donner une réponse à sa question.
Tu lui donnes tu lui donnes une fausse date. Tu lui donnes une date, il est content. Voilà. Mais la date est fausse. Je te dis d'avance. Donc, soit tu lui donnes une date fixe, tu changes de périmètre. Soit tu ne changes pas le périmètre ou tu changes la date. Rajouter des personnes ne changera rien. Je continue sur le débat, mais ne prennent pas les questions. Je crois que j'ai quasiment fini. Et un point important, c'est que souvent, je leur demande d'arrêter de penser, mais exécuter votre art. Sachez bien coder, sachez bien faire des tests, sachez bien tester. Arrêtez d'inventer le truc, exécutez, faites. Et du coup, on a des Kanban à peu près partout pour l'ensemble des produits. Et notamment pour le suivi des infrastructures, du suivi de data center et tout ça. Et on a environ 20 boards. Et ce qui s'est passé, j'avais décrit le board. Juste, ce sens, on avait pas mal travaillé. Ce board-là, c'est toute la partie préparation des stories. Donc là, il y a les idées, les opportunités. Là, le parking, c'est une idée, mais pour X ou Y raison, légale, politique, on ne peut pas la faire, commerciale. Ici, là, c'est l'écriture de la story. OK, c'est intéressant, je vais essayer de la décrire pour voir ce que ça fait. Et là, j'ai mon backlog. Et ensuite, là, les développeurs peuvent tout voir, mais ils sont fait un board simplifié qui commence que là, où ils voient, là, je leur donne les priorités. Et là, vous voyez, il n'y en a que 4. Après, il y a celle en cours, celle en attente de validation. et après en test et les réaliser, etc. Et après, là, vous avez les versions. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est de faire des grosses releases à 6, 9, 4, pour passer des petites releases à 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ensuite, je mets des bonus, c'est-à-dire, ici, ils sont en avance, vous tapez dans les bonus, vous prenez une story qui vous plaît et ça avance. Ça, ça permet en gros de jouer sur le temps. On est en avance, on est en retard, on joue là-dessus. Et pour optimiser le nombre de livraisons par mois, je diminue la taille de chaque release. Pour qu'il y en ait moins, mais livré. C'est-à-dire que mon stock de coûts de développement, il est de plus en plus faible. Je ne suis pas encore content, mais... Et après, on a d'autres boards. Pour le déploiement, on a des choses beaucoup plus simples, où en gros, c'est à faire, en cours et fait. Et moi, j'ai la vue Dieu, où j'ai la vue sur tous les projets en même temps, sur notamment toute la partie du haut, c'est toute la partie bug, suivi des tickets. Et par contre, en agilité, on parle souvent de post-it. Chez nous, vous ne trouverez plus de post-it. Parce que les personnes préfèrent avoir le Jira qu'ils mettent sur leur vidéoprojecteur dessus. C'est eux qu'on choisit. Et souvent, le post-it, c'est, pour ceux qui étaient à la conférence ce matin, c'est le cargo culte, c'est l'imitation de ce qu'est l'agilité. Et nous, on n'en a plus besoin. C'est vrai pour nous, c'est peut-être pas vrai pour quelqu'un d'autre. C'est que nous, on a plein de tickets partout. On veut voir les tickets de support, les tickets de déploiement et les tickets de production. Et c'est juste du Jira avec des bornes. Donc oui, je paye une grosse facture à Atlassian. C'est l'éditeur de Jira et ils ont un modèle économique un peu cher. Et ensuite, on a une première équipe cœur à Rouen de R&D. Et là, j'en construis une deuxième, donc celle depuis le début janvier, où tout le monde est à distance. J'ai connu des équipes où, en fait, il y avait qui était sur plusieurs sites, ou une équipe où il y avait deux personnes en télétravail et les autres sur le même site. Ce que vous avez, quand c'est comme ça, c'est une communication très asymétrique. C'est-à-dire que le niveau de communication entre ceux qui sont dans un site et ceux qui sont en télétravail est très différent. Celui qui est en télétravail, il est à 20% de la vraie communication. Donc, le choix, c'est soit l'équipe, elle est complètement sur un site, soit elle est complètement décentralisée, mais tous les membres. Comme ça, ils sont à un niveau d'égalité. Il y a énormément de projets open source qui fonctionnent comme ça. Il y a des sociétés entières qui fonctionnent comme ça. Donc ça, c'est le livre de Jason Friend, donc de la société qui fait Basecamp. Il y a CloudBees qui fonctionne comme ça. Il y a GitHub qui fonctionne partiellement comme ça. GitHub, ils sont partout dans le monde. Il y a des développeurs un peu partout. CloudBees équivalent. Et ils font des grosses fêtes à des moments donnés. Et donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'expérimenter. Donc là, pour le projet qu'on a rendu fin février, enfin le projet, notre produit, qu'on a montré au public, on avait une personne à Rouen, une personne à Strasbourg, une personne à Bordeaux, et là on va avoir une personne à Montpellier. Ils étaient à peu près tous sur le même pied d'égalité, la personne à Rouen faisait le relais. Et on a fait ça avec des gens expérimentés, on a sorti quelque chose de vraiment viable, de vraiment joli en moins de 2 mois. Par contre, voilà, il faut s'adapter. Et moi, mon but, là, c'est d'acculturer les autres équipes au télétravail pour qu'elles se rendent compte de comment c'est qu'on est à distance. Il faut leur dire, ah oui, il faut que je formalise plus de choses sur le Slack. Au début, ils ne s'en rendaient pas compte. Et là, en ce moment, ils sont des trucs un peu compliqués. Donc, des fois, ils s'isolent chez eux pour finir la chose. Et donc, ils se rendent compte de comment c'est. Ce qui permet d'avoir des gens, les meilleurs talents, qui puissent choisir leur qualité de vie. Qu'ils ne soient pas dans les bouchons à la périphérie des villes. Sur Rouen et Caen, je crois que c'est la même galère tout autour. Et Paris, je ne dis pas. Ensuite, en termes de scalabilité, l'armée mongole, en fait, ils avaient des équipes de 10. Chaque équipe de 10 élisait un chef, et chaque chef élisait leur premier colonel, qui élisait leur général et leur super général, et au-dessus, c'était le Khan. Donc. Et en fait, on pense que les armées sont des organisations très vieillottes, et en fait, c'est les plus modernes. Vous prenez tous les livres de management, c'est que des anciens généraux américains. Parce qu'en fait, vous avez le temps de la stratégie, de la chaîne de commande. Eux, ils sont à la journée, ils se réunissent une fois par jour. Sur le terrain, ils sont à 2 secondes de se prendre une balle. Donc tous les choix tactiques se font sur le terrain. Et la chaîne de commande, c'est on doit aller par le pont, on doit aller envahir cette ville de ce côté-là, et ils revivent tous les jours. Mais les choix tactiques sur le terrain, par où on passe, ce sont les hommes. Et l'objectif, c'est d'avoir la même chose. Donc l'objectif, c'est d'avoir des équipes autonomes avec une mission, en termes de processus, en termes de technologie choisie, en termes de recrutement, je veux que mes équipes recrutent leurs propres collaborateurs. Ça leur prend du temps, mais du coup, on ne leur impose pas des personnes, ils choisissent comment ça. Et moi, je suis juste un coach pour essayer d'équilibrer les caractères. De mélanger les juniors et les seniors et d'avoir des équipes de 5, 6, 7, pas plus. Plus vous mettez de personnes, plus vous avez de liens d'interaction entre les personnes et le nombre d'interactions augmente en exponentiel. Pour les plus jeunes, il y a un livre des années 70 sur du C++ qui s'appelle The Mythical Man Months où il explique que rajouter des personnes sur un projet, ça ne fait que le ralentir. Ça date des années 70 et c'est toujours pas compris par beaucoup de personnes. Enfin, on met du management avancé, c'est-à-dire ça vient d'un général américain où les managers, et moi je vois mes collaborateurs toutes les 2-3 semaines, une semaine, ça dépend des personnes, sur des 1-1, où le premier quart d'heure, c'est le collaborateur qui parle. Nous, on peut relancer pour des sujets, pour tout ça. Après, on fait des feedbacks d'amélioration ou correctif, d'amélioration, même pour les Français. Et ensuite, du coaching à long terme sur « je voudrais monter en compétence là-dessus, je souffre un peu, comment je peux m'accompagner ?» Coacher, ce n'est pas faire apprendre, c'est lui donner les moyens d'apprendre. Et enfin, il y a des choses sur le disque. Le disque, c'est tout ce qui est mode de communication. Dominant Sarkozy, influent Chirac, c'est « je me base sur mon réseau pour faire les choses », les commerciaux en général. Stable, c'est « je mets mon intérêt derrière celui de l'intérêt de l'équipe ». C'est les personnes qui apportent des gâteaux, tout ça, là, au travail. Et consciencieux, ça va être typiquement les comptables, que tout soit prêt comme ça. Après, c'est des caricatures, hein. On est toujours un mélange de ça. Et en général, les I et les S ne s'aiment pas, parce que c'est la personne qui fait très consciencieusement son travail, ensuite la personne qui parle. Et dominant, c'est celui qui casse tout pour avoir du changement, et l'autre, c'est celui qui veut la stabilité. Donc ça se gère. Je vous ai mis le lien pour ça. Et l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de scalable, c'est-à-dire que j'ai mis des jeunes managers, des jeunes entreprises, qu'on commence avec une ou deux personnes. Comme ça, si elles font des erreurs de management, elles le font sur une ou deux personnes et elles apprennent. Quand on fait des erreurs, on apprend. Et du coup, ça va permettre, en gros, que chaque manager puisse absorber un collaborateur, deux collaborateurs, quatre collaborateurs de plus, monter jusqu'à 7 et terminer. Ce qui permet de monter de 15 à 70 facilement et après de refaire ça avec les personnes pour monter de 70 peut-être à 200. En termes de management. Ça me permet que s'il y a un problème, qu'il y a quelqu'un qui ne sent pas bien, je le sais dans les 15 jours, 3 semaines maximum. Et ça évite d'avoir l'entretien annuel tous les ans qui est un entretien cocotte minute. On a tout retenu. Normalement, si on a bien fait son travail, on a fait ressortir tous les problèmes avant, on a tenté de les résoudre. Ce n'est pas toujours facile, mais ça permet en gros d'avoir quelque chose de scalable. Enfin, tous les jours à 17h, ils reçoivent un email, c'est Teamwood, c'est une société toulousaine, pour dire si vous avez passé une bonne journée, une mauvaise journée, ou pas une bonne journée. On aime bien la data, donc on aime bien avoir des stats là-dessus. Donc ça permet de voir en gros les périodes de rouge, ça permet de détecter 2-3 problèmes. Ça permet de détecter que le vendredi, les gens sont plus contents que le lundi. Voilà. Mais ça, en gros, ça permet de détecter en avance 2-3 gros problèmes. Et de dire à un moment, quelqu'un me dit, ouais, ça s'est super bien passé la réunion. Je vais sur Teamwood, j'ai fait, oh putain, ça s'est pas super bien passé en fait.
C'est anonyme.
Après, les gens peuvent mettre des commentaires et au style des commentaires, tu peux reconnaître les gens. Alors après, il y a plus pervers, il y a les gens qui imitent le style d'un autre. Voilà, c'est des développeurs, hein, ils connaissent les limites des logiciels et tout ça. Donc, Et donc du coup, mon rôle là, c'est que d'aligner toutes les équipes autonomes. Je vais traverser le pont, je vais traverser la mer, je vais construire une maison. Enfin pas je vais construire une maison, je vais avoir un endroit pour habiter. Et de m'assurer que tout est aligné. Parce que comme tu dis, il y a moins de contrôle, donc on sait moins ce que les gens vont faire, mais c'est le contrôle. Mais mon rôle, justement, c'est d'aligner tout le monde. De toute façon, même quand tu mets du contrôle, c'est le bazar. Hein. Et souvent, on me dit, les gens, ils pourraient faire deux fois le même travail. Parce que ce n'est pas le cas dans ton organisation, déjà. Là, si deux personnes font le même travail, c'est bien, parce qu'il y a deux personnes qui ont appris une nouvelle chose. Donc, ils peuvent passer le savoir à d'autres personnes. Là, c'est de m'assurer que tout soit aligné.
Qu'est-ce que tu appelles
aligné ? C'est-à-dire que... il y a une stratégie d'entreprise, et que ce que fait l'équipe A... et l'équipe B et l'équipe C, ça soit aligné par rapport à la stratégie d'entreprise qui peut changer tous les 6 mois, tous les 4 mois. qui font pas les trucs qui servent à rien. Et que si, par exemple, j'ai une équipe qui fait un bot conversationnel, c'est une API, c'est en gros, c'est donne-moi le chiffre des commerciaux du mois dernier, par commerciaux. J'ai une équipe qui fait l'interface. Et donc les deux équipes qui ont une interaction. Donc ça, c'est toujours difficile à gérer, toujours chiant à gérer. Et du coup, moi, c'est de m'aligner que les deux travaillent dans le même sens. Pour limiter, en fait, le nombre de dépendances entre les groupes. Parce que s'il y a une dépendance entre les groupes, c'est toujours la faute de l'autre. Et à grande échelle. Mais avant d'aller là-dessus, moi, je veux juste qu'on release plusieurs fois par mois des fonctionnalités. Actuellement, on est à 1,5 mois. On est une plateforme, c'est difficile. Et là, je veux aller. La nouvelle équipe va pouvoir le faire parce que c'est plus adapté. Mais je veux que l'équipe cœur puisse livrer plusieurs fois par mois. Comme ça, JetGenScan sera frère de nous. Merci de votre attention. Ça devait finir à quelle heure ? Enfin, okay. Si vous avez des questions, vu que c'est la dernière, je ne sais pas. Non, mais j'ai jamais eu autant de questions au milieu.
vous adressez surtout à des développeurs
Des agilistes, des chefs de projet.
Parce que...
Mais un chef de projet dans l'informatique.
D'accord. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'anglicisme en fait.
C'est mon grand défaut.
Est intéressant, mais ça aurait été bien d'avoir une version.
Française.
Française.
Ok. Française ou non informatique par rapport à la
technique.
Ok. Ça marche.
Parce que c'est un modèle qui est adaptable en fait dans autre chose que l'informatique.
Ouais. En fait, je pense qu'il est adaptable au. Enfin, le monde de l'informatique, enfin le monde de la construction logicielle, c'est un monde qui est particulier. C'est-à-dire que c'est pas une tâche répétable. Une tâche répétable, c'est une boucle en programmation. Ça s'automatise. Je ne suis pas sûr que ça s'adapte au génie civil ou au bureau d'études, par exemple. Je demande à mes copains, mais...
C'est à voir. C'est à voir. Parce que justement, l'anglicisme est un frein, en fait, avec tous les termes techniques. Moi, je suis web designer, donc il y a des termes que je comprends par mon ami à côté.
J'ai vu les petites têtes.
Fois, en fait.
D'accord, voilà. Ça marche.
Donc,
ok. Donc j'ai fait devant des agilistes, devant des élèves et devant des développeurs, les trois. Et c'est des agilistes, j'allais dire parisiens. Après la conférence, c'est toujours marqué en intermédiaire normalement. Enfin, j'espère. Voilà. Et c'est, faut avoir fait au moins un projet agile en général. On a changé le titre de ma session. C'est pour ça.
Et
vas-y.
Ça vous est venu comment, en fait, l'histoire avec les Mongols ? Est-ce que bon. Zhun Tzu, il ne parle pas des Mongols ?
Oui. Qui ça ?
L'art de la guerre.
Oui. Voilà, c'est juste pour reprendre le terme. Et en fait, il y a un livre référence dans le Kanban qui s'appelle... c'est un truc sur les flux avec des rivières et tout ça. Le livre, il est chiant comme la terre. Et du coup, j'avais un livre sur la biographie de Genghis Khan et je l'ai lu à la place pendant les vacances.
D'accord.
Voilà. Et en fait, j'ai trouvé que ça s'adapte beaucoup mieux. ils ont fait ça en 94 ans. Et tout ça, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour avoir une suite logique par rapport à ça. Donc voilà.
Ok, merci.
Juste une petite remarque par rapport à l'anglais.
Oui. C'est pour ça que j'embête tous mes collaborateurs avec ça. C'est après.
Ça demande un effort.
Voilà. Mais... Après, moi, c'est pour avoir écrit la présentation une fois. Pour être franc, hein, c'est par fainéantise aussi.
Ouais. Voilà. Moi, je donne des formations sur les CMS et j'arrive toujours à vulgariser l'utilisation des CMS.
Ouais.
En
ouais.
J'y arrive.
Ouais. Mais là, l'objectif, c'est que j'étais English first. Et tout.
Voilà.
C'est l'anglais en premier. Voilà. Donc on a levé des fonds et on attaque le San Francisco au mois de mai.
D'accord.
Voilà. Okay. Voilà. Ça marche. Mais je comprends. Je comprends. C'est des choses où je ne suis pas forcément d'accord, par exemple, avec Fred Le Guédois et tout ça. Où c'est le problème, c'est que je sais que la société va grossir et c'est que si les gens ne s'acculturent pas à l'anglais, il va y avoir un problème. Parce que je suis tapé deux migrations de doc en anglais dans ma vie et plus jamais j'en ferai. Voilà. Voilà, c'est parce que je suis sur un autre objectif.
Mais ça pourrait être objectif Japon, ou ça pourrait être. Là, il serait plus aussi en japonais, le problème, c'est que ça posait de la même façon.
Oui.
Voilà.
Oui. C'est pour moi, c'est appliqué pour une start-up dans le logiciel. C'est une start-up, des objets connectés, il y a pas mal de concepts qui s'adaptent, mais pas forcément tout. Je sais qu'il y a pas mal de start-up dans des objets connectés à Caen, c'est pour ça.
Je comprends.
Voilà, mais je comprends la remarque. À Paris, je n'ai pas eu.
Ouais.
En tout cas, merci pour les questions au milieu.
Merci pour les réponses.
Et donc, c'est Yun Shene, ils ont fait une faute. Je ne suis pas du tout d'origine asiatique, tout ça.
Que les boutons aient pu voler sur Internet.
Oui.